morning edition from NPR News.
Même si fille s'en vient de Hausi.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, nous sommes à Malte, où le gouvernement est en train de tomber après le travail d'une journaliste assassinée il y a 2 ans et dont les enquêtes ont été reprises par Forbidden Stories, qui reprend le travail des journalistes tués ou empêchés de travailler. L'affaire Daphne Caruana Galizia, nous en avions déjà parlé ici et vous verrez comment elle fait encore peur au gouvernement de Malte. Le bruit du monde est en Côte d'Ivoire, qui essaie de se protéger de la contagion djihadiste à ses frontières. Et Amélie Perrier nous parlera des eaux du Nil ou d'un robot plus vrai que nature. 18h50, le cinéma en VO d'Eva Bétan, Made in Bangladesh, un film d'une réalisatrice du Bangladesh, et c'est très rare. 18h55, Le Monde à l'envers, Jean-Marc Four et le jet de l'éponge de Kamala Harris dans la course à l'investiture démocrate aux États-Unis. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Et bonsoir à vous, Arthur Bouvard. Vous êtes journaliste, membre de Forbidden Stories, l'organisation bonsoir. Qui a repris les enquêtes et créé d'ailleurs le Daphné Project. Et bonsoir Sylvain Tronchet,
bonsoir,
de la cellule d'investigation de Radio France. Vous aussi, vous participez à ce Daphné Project et vous suivez toujours cette affaire de Daphné. Ceux qui suivent de près l'actualité savent que le gouvernement de Malte est en train de vaciller. Je voudrais d'abord qu'on remette un peu les choses à plat pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien. Donc voici Daphné Caruana Galizia, qui était journaliste anticorruption, qui enquêtait au plus près du pouvoir à Malte sur des pots de vin, sur des sociétés offshore, des comptes offshore dont elle soupçonnait qu'ils servaient à abriter des pots de vin. Son enquête était très avancée, très documentée. Elle a été assassinée dans l'explosion de sa voiture. C'était en octobre 2017. Le réseau de journalistes de Forbidden Stories, donc auquel appartient la cellule d'investigation de Radio France, a repris cette enquête, confirmé certains liens et faits de corruption. Et tout s'est accéléré ces derniers jours. Démission en cascade du chef de cabinet du Premier ministre, du ministre du Tourisme, démission aussi ou suspension de ses fonctions, c'est comme ça qu'il l'appelle, du ministre de l'Économie, et démission annoncée, puisqu'il le fera, ce sera effectif au mois de janvier, de Joseph Muscat, qui est le Premier ministre. Je me tourne vers vous deux, Arthur Bouvard, qu'est-ce qui s'est passé pour que ces démissions en cascade interviennent d'un coup comme ça ?
Alors, c'est vrai que ça faisait 2 ans que l'enquête sur la mort de Caruana Galizia semblait piétiner. 3 hommes ont été arrêtés quelques semaines après cet attentat à la bombe. Ce qu'il vient de se passer à Malte, c'est qu'aujourd'hui, les intermédiaires de cet assassinat commencent à parler. Et des pardons ont été négociés avec les autorités et on commence à avoir les premiers noms qui tombent. Et ces noms remontent très très haut, jusque dans l'entourage du cabinet du Premier ministre.
Alors, pour faire la cascade, la première personne arrêtée, on va le faire comme ça, c'est un monsieur qui s'appelle Melvin Thema, Sylvain Tronchet. 2 jours, si je puis dire, et officiellement c'est un chauffeur de taxi, il est bien plus que ça, ce monsieur. C'est par lui qu'on commence à tirer la ficelle.
Oui, c'est-à-dire que ce Melvin Thema, en fait, il est tombé dans une affaire d'anti-blanchiment, hein, dans laquelle il y avait Europol, d'ailleurs, il y avait la coopération. L'opération des polices européennes, et ça a peut-être expliqué d'ailleurs que cette affaire s'enclenche. Il n'y avait pas seulement la police maltaise au départ dans cette histoire. Il tombe pour une affaire de prêt usuraire et de loterie clandestine, et alors qu'il est arrêté, il dit « Stop, si vous m'accordez l'immunité, j'ai des révélations à faire sur l'assassinat de Daphne Caruana Galizia ». Et en fait, il explique qu'il a été un intermédiaire entre les 3 hommes dont parlait Arthur, qui sont les 3 assassins présumés qui sont en prison depuis 2 ans maintenant, et quelqu'un de plus puissant situé au-dessus de lui, et il désigne tout de suite un homme d'affaires très connu sur l'île qui s'appelle Jürgen Fenech.
Alors donc pour qu'on comprenne bien, en gros, c'est lui qui reçoit l'argent et qui est chargé donc, grosso modo, peut-être d'engager les tueurs ou pas, en tout cas l'argent...
150 000 euros,
l'argent passe par lui, c'est bien ça l'idée, Arthur Bouvard.
Oui, exactement. Selon les dernières informations, il a d'abord été envisagé d'assassiner Daphne Caruana Galizia par balle, avant que les tueurs finissent finalement d'opter pour une attaque à la bombe.
Alors, il donne, contre son immunité, un monsieur qui s'appelle Jürgen Fenech, et c'est là que les choses commencent à devenir intéressantes. Énorme homme d'affaires sur l'île, quelqu'un qui a des intérêts partout, qui connaît visiblement beaucoup de monde dans les arcanes du pouvoir. Et ce qu'il faut rajouter, c'est que ce qui ne plaide pas tout à fait en sa faveur, c'est qu'il cherche à s'enfuir, Sylvain, puisqu'on l'a retrouvé au milieu de l'eau sur son yacht,
oui.
Ce garçon.
Il est à peu près établi maintenant que Jürgen Fenech était renseigné par le pouvoir, et notamment par un proche du Premier ministre, hein, Keith Chambry, dont on va parler, sur l'avancée de l'enquête. Et manifestement, parce qu'il était averti qu'il risquait d'avoir quelques soucis avec la police, il a embarqué à bord de son yacht, effectivement, et il a été arraisonné en mer. on est comme dans un film, par la police maltaise, ramené au port de La Valette. Et là, lui aussi, donc, commence à être interrogé par la police.
Alors, il est interrogé, mais en quoi son arrestation à lui, il peut être homme d'affaires, il peut être véreux, en quoi son arrestation à lui nous amène jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir ?
Ce que le Daphné Project avait à révéler, c'est que Jorgen Fennec est l'homme, le propriétaire d'une mystérieuse société enregistrée à Dubaï qui s'appelle 17 Black, une société sur laquelle Daphné travaillait. Et cette société est suspectée d'avoir tenté de rétrocéder des pots de vin à des membres du gouvernement, donc le ministre du tourisme de l'époque, Konrad Mizzi, le chef de cabinet du Premier ministre, Keith Chambry.
Keith Chambry qui a démissionné, Konrad Mizzi aussi, le ministre de l'économie, lui aussi dans le même genre de passe-droit, de corruption, ou est-ce qu'on est encore dans quelque chose de différent ?
Alors, Chris Cardona...
Ministre de l'économie, pardon.
Le ministre de l'économie s'est suspendu de ses fonctions. C'est quelque chose qui n'est pas très clair, d'ailleurs, dans la constitution maltaise. Et apparemment, il aurait été vu retournant à son bureau après cette suspension.
Est-ce que tout ça nous aide à comprendre où peuvent être réellement les commanditaires ou pas encore, Sylvain Tronchet ?
Disons qu'on avait des doutes. Par exemple, une des enquêtes du Daphné Project avait permis de montrer que très probablement Chris Cardona, dont on parle, le ministre de l'économie, connaissait l'un des trois assassins présumés. On avait recueilli plusieurs témoignages qui allaient dans ce sens. Donc, il y avait des doutes. Maintenant, ce qui se passe, donc, puisqu'on est remonté à l'échelon du dessus, on est à Jorgen Fennec, c'est cet homme d'affaires qui aussi était dans les radars du Daphné Project, parce qu'il était déjà dans les radars des enquêtes de Daphné Caruana Galizia. Maintenant, Jorgen Fennec, ce qu'il dit ou ce qu'il laisse entendre, c'est qu'il peut incriminer des personnes placées au-dessus de lui. Au-dessus de lui, c'est qui ? Tout le monde sait vers qui se tournent les regards. C'est Keith Chambry, c'est le chef de cabinet,
du Premier ministre.
C'est même plus qu'un chef de cabinet. C'est quasiment le numéro 2 de l'État dans le fonctionnement du système maltais. Et Konrad Mizzi, le ministre du Tourisme, qui était ministre de l'Énergie à l'époque. Parce que ces supposés pots de vin, tout cela prend place autour de la construction d'une usine, d'une centrale à gaz, avec l'intervention de l'Azerbaïdjan, etc., comme on l'avait montré. Maintenant, c'est vers l'étage du dessus, donc le gouvernement, que se tournent les regards.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il s'est mis à table, Jorgen Fennec, ou pas ? Est-ce qu'il lâche des noms ? Est-ce que lui aussi est en train de jouer, comme son intermédiaire du dessous, son immunité contre des informations qui montent au plus haut du pouvoir ?
Il l'a fait, il a réclamé son immunité, mais qui doit lui accorder l'immunité ? C'est le Premier ministre, c'est Joseph Muscat. Donc, en gros, Joseph Muscat est dans la position d'accorder ou pas l'immunité à quelqu'un qui pourrait incriminer son collaborateur le plus proche.
Donc, c'est aussi pour ça que c'est très compliqué cette affaire Arthur Bouvard, parce qu'on se mord beaucoup la queue. Il faut rappeler que Malte, c'est 450 000 personnes. Donc, c'est vraiment petit. La taille, c'est trois fois Paris. On a regardé ça ensemble cet après-midi, Sylvain Tronchet. Ça veut dire que aussi, ce sont...
Paris en superficie.
Absolument. Et en nombre d'habitants, je me souviens plus ce qu'on avait regardé. Toulouse, absolument. Le nombre d'habitants de Toulouse. Dans un pays comme celui-là, c'est le gouvernement qui nomme les magistrats. C'est le gouvernement qui nomme les procureurs. Donc, à quel moment on peut se dire que, de toute façon, cette enquête peut se faire, là, judiciairement, dans de bonnes conditions ?
C'est une vraie question d'indépendance de la justice à Malte. On voit bien que de nombreux magistrats qui ont essayé de mener des enquêtes, de nombreuses enquêtes existent contre Konrad Mizzi, contre Keith Chambry, sur justement des faits de corruption qui avaient été révélés par Daphné. Et ces enquêtes qui ont été ouvertes il y a 3 ans, elles piétinent complètement aujourd'hui, elles n'ont pas avancé. Donc on est en droit de se poser la question de comment cette affaire de meurtre peut elle aussi arriver à son terme.
Et c'est pour ça que on n'est pas les seuls à se poser la question. Le Conseil de l'Europe a clairement dit qu'il y avait un problème d'état de droit à Malte. Le Parlement européen a envoyé des missions sur place, encore une d'ailleurs là, ces 2 derniers jours. Il y a un hiatus dans l'organisation judiciaire maltaise.
Je vous pose la question parce que dans n'importe quel autre pays ça se passerait peut-être différemment, mais là, est-ce qu'on peut se dire que oui, l'arrestation de Jorgen Fennec peut faire avancer réellement les choses et changer la donne sur cette enquête autour de Daphné, ou au fond on n'en est même pas sûr, parce qu'est-ce qu'il y aura une suite ou est-ce qu'il n'y en aura pas ?
Je vais vous prendre un exemple.
Alors ça va finir par se voir, vous me direz, mais enfin quand même.
Oui, mais Jorgen Fennec, par exemple, il doit témoigner devant un magistrat, là, justement, pour dire ce qu'il a à dire. Or, la magistrate, en l'occurrence, qui a été désignée, est la belle-fille de l'avocat personnel de Joseph Muscat, du Premier ministre. Alors, il est question effectivement qu'elle se déporte, mais spontanément, c'est quand même elle qu'on a désignée. Le chef de la police à Malte, on le sait, est dans la main du Premier ministre. Or, le chef de la police à Malte, il a aussi l'opportunité des poursuites. Hein. C'est un chef de la police plus un procureur. Les enquêtes n'ont pas beaucoup avancé. Il y a une vraie problématique. On peut malheureusement douter de l'indépendance de la justice et de la police maltaise, sauf que là, maintenant, les faits commencent à être graves.
Comme je le disais, ça va finir par se voir. Je voudrais qu'on écoute un instant Corinne, qui est la sœur de Daphné Caruana Galizia. Elle était aux audiences, parce qu'il y a des audiences. Aujourd'hui, celle notamment de ce fameux intermédiaire, celui qui a eu les billets, qui s'appelle Melvin Thomas, et voici ce qu'elle en dit quand elle sort.
Thomas, on the witness stand, under oath,
Thomas, qui témoignait sous serment, a attesté qu'il avait été invité à une réunion dans le bureau du Premier ministre. Cela a été arrangé par un homme du nom de Sandro Kraus, qui est toujours le secrétaire personnel du Premier ministre Joseph Muscat.
Et
il avait donc rendez-vous avec Keith Chambry quand Keith Chambry était encore chef de cabinet. Il a seulement démissionné la semaine dernière. Et l'objet de ce rendez-vous était d'offrir à Melvin Thomas un emploi payé par l'État et pour lequel il n'aurait même pas besoin de travailler. Il semblerait qu'on lui ait offert cet emploi en échange de services rendus. Donc, ce qu'on voit ici, c'est l'État utilisé pour payer un homme qui a avoué un meurtre. Et Joseph Muscat, l'actuel Premier ministre, est toujours en place. C'est très clair qu'il reste au pouvoir uniquement pour se protéger, lui et Keith Chambry. Bien sûr, je suis en colère que tout cela ait eu lieu, mais je n'éprouve rien vis-à-vis de ces hommes. Je n'ai rien à faire des gens qui sont des criminels. Je les méprise. Qu'ils conduisent un taxi comme Melvin Thomas ou dirigent le gouvernement comme Joseph Muscat avec l'aide de Keith Chambry et Sandro Kraus, je les méprise. Je pense simplement qu'ils doivent quitter la circulation pour que le reste de la société puisse vivre sans leurs crimes.
Et merci à Martin Roux qui a recueilli les propos de la sœur de Daphné. Donc ce qu'on comprend quand on écoute ça, Arthur Bouvard, c'est que le système est vraiment pourri de l'intérieur. En même temps, il y a eu des manifestations à Malte aujourd'hui. On a vu aussi que l'Europe était en train de s'en mêler doucement. La Chambre de commerce et d'industrie a publié aussi un communiqué pour dire qu'au bout d'un moment, ça commençait à suffire. On peut imaginer qu'ils en peuvent plus de verser des pots de vin ici et là. Donc est-ce qu'on peut dire que quand même, il y a un tournant dans la société maltaise autour de cette affaire ou pas? Ou pas encore.
Ce qu'on peut voir, en tout cas, c'est qu'il n'y a pas eu des manifestations qu'aujourd'hui. En fait, ça fait une semaine que les Maltais sont dans la rue, nuit et jour. Sont des milliers de gens qui attendent Joseph Muscat le matin avant qu'il aille travailler. C'est l'opinion publique, en tout cas, qui mettra la pression. Le Parlement à Malte, aujourd'hui, est en vacances jusqu'à après Noël. Donc, l'arme constitutionnelle pour forcer Muscat à démissionner n'est plus là. Donc, il n'y a aujourd'hui que la pression populaire qui peut le forcer à démissionner.
Et un peu la pression de l'Europe quand même, Sylvain.
Ouais, il y a eu une déclaration d'Ursula von der Leyen aujourd'hui à la fin de son point presse, la commissaire européenne, parce que le cas de Malte a été évoqué lors de cette réunion. C'était pas très, tout était dans sa déclaration, quoi. Elle a condamné l'assassinat, et dit qu'il suivait la situation de près, mais. Disons-le, la Commission européenne n'a jamais vraiment mis une pression extrêmement intense sur Malte. Au Parlement européen, il y a des relations ambiguës avec l'État de Malte, parce que Malte, c'est pratique pour faire des majorités aussi, parce que le gouvernement à Malte est un gouvernement travailliste et qu'il siège avec d'autres partis travaillistes, y compris français, et que parfois ils ont eu du mal à les condamner ouvertement. Il y a une enquête en cours sur l'état de droit à Malte précisément, mais il y a difficulté de l'Europe à s'introduire dans les affaires intérieures maltaises.
Mais alors, est-ce que de toute façon, je parlais de tournant tout à l'heure, on n'a pas découvert qu'il y avait un problème de corruption à Malte avec cette histoire-là, hélas. Est-ce que ça veut dire de toute façon que même si la chute de Joseph Muscat semble imminente, encore une fois, est-ce que même si la majorité changeait, on peut imaginer que quelque chose soit différent, ou est-ce qu'on est dans quelque chose qui est nettement plus endémique et qu'il faudra beaucoup plus d'années pour essayer d'en venir à bout?
Il y a eu de nombreux scandales de corruption dans la classe politique maltaise tout au long des années, mais rarement au degré qu'a atteint l'actuel gouvernement. Il faut bien dire les choses, je parle sous le contrôle d'Arthur, mais il y a quand même, là on a atteint un niveau d'industrialisation quand même, hein, de ce genre d'affaires. Il est clair que, de toute façon, encore une fois, vu la concentration des pouvoirs dans les mains d'un seul homme que garantit la constitution maltaise au Premier ministre, tant que Joseph Muscat restera au pouvoir, on voit difficilement comment on pourra sortir de cette affaire.
Et est-ce qu'on sait, d'ailleurs, ce sera la dernière question, Arthur Bouvard, est-ce qu'on sait pourquoi il n'est pas parti tout de suite? D'ailleurs, il dit qu'il attend le mois de janvier, mais pourquoi attendre le mois de janvier? Qu'est-ce qu'il se passe là dans ces trois semaines avant sa démission?
Alors, il doit gérer les affaires quotidiennes de l'État pendant les vacances. En gros, il ne veut pas laisser le pouvoir vide. Et on peut penser qu'en réalité, il espère organiser la suite pour son propre parti et s'assurer que son parti reste au pouvoir.
Voilà, on va rappeler quand même que cette enquête, merci beaucoup à tous les deux, vraiment, cette enquête, elle n'est possible que grâce aux journalistes de Forbidden Stories, à tous les journalistes qui participent à ce genre d'enquête. Il y en a 45 qui sont sur l'affaire de Daphné, 18 médias confondus, et c'est pour ça qu'on arrive à ce genre de résultats. On va la suivre de près, évidemment, cette affaire, grâce à vous deux. Merci mille fois.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès, sur France Inter.
La suite d'un jour dans le monde, c'est le bruit du monde et ça se passe aux frontières de la Côte d'Ivoire. Et puis Amélie Perrier, ce soir, c'est le bruit de l'eau pour vous.
Un barrage sur le Nil et de grosses tensions entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte.
Le cinéma en VO, Eva Bétan. Eva, un film qui vient du Bangladesh, c'est rare.
Et commencez déjà par regarder l'étiquette de vos vêtements. Il y a peut-être écrit Made in Bangladesh.
Il y a même toutes les chances. Le monde à l'envers, Jean-Marc Fourcey. Le monde qui s'écroule pour Kamala Harris.
Et oui, elle se retire de la course à l'investiture démocrate pour une histoire d'argent, dit-elle. C'est bien plus que cela.
Allez, à tout de suite, tout le monde. Profitez de Tix d'auteur, Georgia, ça date de 2015. When I wake up in the morning, then the light from the curtain hurts my eyes when I hide and see your face. One, two, three, oh! You got me singing Georgia. Ce soir est en Côte d'Ivoire, vous savez, puisqu'on en parle très souvent ici même, pas une semaine sans que le Mali ou le Burkina Faso soient frappés par le terrorisme. La Côte d'Ivoire partage plus de 1000 km de frontières au total avec ces deux pays sahéliens. Aucun attentat n'a eu lieu dans le pays, mais la Côte d'Ivoire a renforcé ses effectifs de sécurité. Voici ce que ça veut dire pour ce pays avec Amandine Réau.
Nous sommes dans le village de Kadavogo. En plein après-midi, les enfants font des saltos dans le fleuve. Sur l'autre rive, c'est déjà le Burkina Faso. Ici, les forces de l'ordre sont légion, gendarmes au poste frontière et depuis peu, 7 militaires patrouillent jour et nuit. L'adjudant Dion est en mission ici dans le cadre de l'opération Frontières étanches.
Notre mission dans ce village, c'est de sécuriser les villageois, protéger le long de cette frontière parce que le fleuve que vous voyez, il nous sépare du Burkina Faso. Veillez à ne pas que l'ennemi puisse passer par là pour venir perturber la quiétude des villageois.
En raison des échanges permanents entre les deux pays, la frontière est poreuse. Les points de passage, un fleuve, des forêts classées sont multiples et difficiles à contrôler.
Vous voyez le village, il n'est pas électrifié. Quand nous sommes là, c'est totalement l'obscurité. Pour nous, ça ne nous gêne pas tellement. Mais
c'est-à-dire que c'est compliqué de voir aussi ce qui se passe la nuit, c'est ça que vous voulez dire?
Ah oui, voilà. Les arrivées. À période sèche, il y a moins d'eau. Du coup, ça complique le travail. Quand il y a moins d'eau, la traversée est facile. Les gars peuvent déborder de toutes parts. Mais quand il y a cru, là, ça va un peu. En face, nous pouvons imaginer tout. On peut imaginer qu'il y ait des ennemis et tout. Est-ce qu'il vaut même notre présence ici?
Une présence qui rassure Stanislas Loukou, instituteur.
S'ils n'étaient pas là, ça allait être un peu plus angoissant, quoi. Voilà. Parce qu'on serait laissé à nous seuls. On n'aura pas un recours en arrière. Du moment où ils sont là, bon, nous, ça nous rassure.
Mais l'isolement géographique inquiète l'enseignant muté dans le village il y a 2 ans.
Intérieurement, on s'interroge. Parce que laisser sa famille à 500 km, là aussi, c'est une autre question. Ils sont très inquiets, ils s'interrogent. Bon, s'il y a un truc, tu fais comment? Tu es à 45 km de la ville, il n'y a pas un engin pour sortir. Bon, mais on dit ça va, Dieu gère. Dieu est au contrôle, les forces de l'ordre sont là, les villageois sont là, ils ne viendront pas nous tuer seuls. Et puis, ce sont des choses qui ne sont jamais arrivées ici.
À Kawara, sous-préfecture un peu plus à l'est, la présence militaire s'est intensifiée ces derniers mois. Aux soldats qui viennent régulièrement, les habitants doivent communiquer tout comportement suspect, quitte à se méfier de tout le monde.
Écoutez, quand vous voyez le mal ailleurs, ne croyez pas que c'est toujours là-bas.
Amoro Ouattara, habitant de Kawara.
Un jour de marché comme aujourd'hui, comme ça, je suis arrivé à la mosquée, j'ai trouvé des sacs déposés. J'ai fait appel à l'imam. Mais pourquoi ces sacs? C'est là, il dit non, c'est un commerçant qui est venu au marché, lors de prière, il est venu avec ses sacs. Il dit non, n'acceptez pas ça ici. Ces bagages-là, on ne sait pas ce que ça contient. Ça peut être des bombes, ça peut être quoi, donc n'acceptez pas ça.
Il y a quelques mois, le ministère français des Affaires étrangères a passé la zone frontalière en orange, déconseillée sauf raison impérative, y compris Kafolo, village où est installé Rénal Gilon.
Bon, mais là, je vais le voir, vous l'avez vu.
Depuis 40 ans, cet ancien militaire belge gère un hôtel à l'entrée de la Komoé, le plus grand parc d'Afrique de l'Ouest. 11 500 km², soit presque la superficie de l'Île-de-France. Seul européen des environs, Rénal Gilon est très vigilant. Il craint que des terroristes chassés du Burkina arrivent en Côte d'Ivoire.
Dans leur retrait, il ne faudrait pas qu'ils viennent se réfugier dans la Côte d'Ivoire. C'est ça le problème. Le parc, c'est vrai qu'il est bien surveillé. Il y a des patrouilles qui sont bien organisées par les commandos forestiers. Mais simplement, il faudrait quand même faire très attention. Parce que si les gens pénètrent dans le parc est tellement vaste qu'on peut se cacher facilement.
Surveiller, quadriller ce parc immense, c'est la mission du sergent Camara et ses collègues des eaux et forêts. La menace terroriste qui se rapproche les inquiète.
Si ça arrive dans les autres pays, ça peut arriver ici. Ça nous guette vigilants. Puisque déjà on sait la menace qui nous guette. Dans quelques mois, il va falloir être très très vigilant. Parce que l'accès serait plus facile. Dans la zone sèche, on n'a pas besoin de piste. Vous choisissez une zone comme ça et vous progressez. Tout est brûlé. Donc comme ça, pendant la zone sèche, il faut vraiment mettre les paquets pour que la sécurité y ait.
La Côte d'Ivoire, dernier verrou avant le Sahel, a connu un seul attentat. C'était il y a 3 ans, 19 morts dans la station balnéaire de Grand Bassam. La prospérité économique, la présence militaire et le rôle des renseignements français, autant de facteurs qui expliquent cette stabilité, même si pour le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, il est impossible d'imaginer un désordre au Burkina Faso sans conséquences en Côte d'Ivoire.
Et merci à Amandine Réau pour ce reportage en Côte d'Ivoire. Le bruit du monde quand il passe sous les radars est signé Amélie Perrier. priori, c'est joli ce qu'on entend, mais ça va être moins drôle dans un instant. Une réunion au sommet, Amélie, a été décidée hier entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan à propos d'un sujet crucial pour ces trois pays, l'eau du Nil.
Car les tensions s'aggravent autour du projet de barrage sur le Nil. Un peu de géographie d'abord. Le Nil bleu prend sa source en Éthiopie. Il rejoint le Nil blanc à Khartoum, au Soudan, pour former le Nil qui traverse ensuite l'Égypte jusqu'à se jeter dans la Méditerranée. Il y a 8 ans, l'Éthiopie lançait le grand barrage de la Renaissance. Elle souhaite commencer à produire de l'électricité avec ce méga barrage dès la fin 2020, dès la fin de l'année prochaine. Pour elle, c'est l'outil indispensable à son développement économique. Le Soudan, lui, est partagé. Les paysans espèrent notamment que la grande retenue mettra fin aux inondations, comme ce paysan soudanais le dit à l'AFP. Le Nil bleu, dit-il, est très imprévisible. Une nuit, il est là, et le lendemain, il sera parti ailleurs. Il monte si vite que parfois la parcelle est inondée avant que nous ayons eu le temps de récolter. Des paysans confiants, donc. Les autorités espèrent, elles aussi, profiter de l'électricité produite par les Éthiopiens avec un accord commercial avantageux, mais des fabricants de briques, par exemple, sont moins enthousiastes car le limon dont ils font les briques sera retenu par le barrage. En Égypte, là, on est carrément contre ce projet. Le Nil fournit 97% des besoins du pays en eau. L'Égypte, 100 millions d'habitants, dont 95% vivent sur les rives du fleuve. Des zones surpeuplées, touchées par la pollution des eaux usées, des déversements industriels et sous l'influence aussi du changement climatique. Alors on comprend les inquiétudes du Caire quand l'Éthiopie retiendra les eaux du Nil, même si Addis Abeba a donné des garanties. Des terres asséchées, c'est le risque, hein, une baisse de production agricole, des difficultés à produire de l'électricité au barrage d'Assouan. Et dans un pays qui a traversé des crises politiques majeures, le risque donc d'une déstabilisation encore plus grande. D'où l'impérieuse nécessité d'un accord entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan. Réunion fixée à lundi prochain, ce sera à Washington, aux États-Unis.
Et voici maintenant une émission de radio d'un genre inédit, ça se passe au Nigeria.
La chaîne s'appelle Human Rights Radio, la radio des droits de l'homme à Abuja, la capitale du Nigeria. Et l'émission, c'est la Brekete Family. Ça commence par une prière et une drôle de manière de dire bonjour.
So help us God as a nation, amen.
Amen.
Yes, in Akwana, Ekaro, Tutoma, on a good morning.
Good morning.
Good morning.
Ouais, oui. Et ouais, le good morning est un peu étrange.
Si je disais bonsoir comme ça, vous
ce serait peut-être drôle. Le présentateur, il s'appelle Ahmad Isa. Il choisit tous les matins parmi la foule qui se réunit devant les studios quelques chanceux qui vont assister au spectacle et surtout qui pourront parler au micro, demander une aide financière, dénoncer la corruption, se plaindre des mauvais soins dans un hôpital. L'émission se déroule en pidgin. C'est la langue parlée par la classe populaire partout au Nigeria. C'est une des raisons du succès d'audience formidable du programme. L'autre raison, c'est qu'Ahmad Isa donne la parole aux sans-voix et dénonce les dérives des puissants et des pouvoirs publics. Il résout les problèmes aussi face par exemple à un juge peu scrupuleux. Celui-ci obtient finalement réparation. Celle-là voit son amende levée. Un autre va bénéficier de la générosité des auditeurs et récolter une belle enveloppe pour agrandir son commerce. Justice, bonté, humanité. Dans un pays où la corruption est généralisée, particulièrement dans le domaine de la justice, un contre-pouvoir pour les pauvres. C'est pour ça qu'Ahmad Isa est surnommé là-bas le président ordinaire. Ordinaire finalement pas tant que ça.
Un câlin pour terminer.
Oui, un petit peu de douceur,
oui,
charnelle.
Choupinette.
Mais avec un robot. C'est la chaîne CNN qui nous parle de cette prouesse scientifique. Des chercheurs ont recomposé une peau artificielle pour permettre à un robot de toucher, de sentir, de répondre à un contact physique. À l'origine du projet, le professeur Gordon Cheng de l'université de Munich, il a recouvert son robot H1 de 13 000 capteurs. Mais comment traiter toutes les données captées? Ah, il reconnaît, le professeur, que ça nécessiterait 600 ordinateurs. Mais pourquoi je devrais me traîner 600 ordinateurs, demande-t-il. Imaginez un camion qui me suit tout le temps. Alors, les scientifiques se sont inspirés de cette vérité chez l'homme que quand par exemple, Fabienne, vous mettez une paire de gants, vous sentez les gants au bout de vos doigts. Mais au bout d'une heure sur votre vélo, vous ne sentez plus les gants. Votre cerveau s'est concentré sur d'autres sensations, la pression sur la pédale, le vent froid dans les yeux, etc. Le système nerveux priorise les sensations. C'est ce que fait aussi le robot H1 qui pourrait ainsi remplacer des humains pour des métiers de contact, d'aide aux seniors ou aux malades par exemple. Faut-il s'en réjouir? Ah, c'est une autre question.
Prouvez-moi que vous n'êtes pas un robot là.
Mais je suis un robot.
Dites-moi un truc gentil.
Mais je suis un robot.
C'est ça. Allez, à demain Amélie ou à plus tard. Mais merci beaucoup aussi Haïm Summer Girl. C'est tout à fait vous, tiens.
Hey. hard to reach. Your smile's turned into crying. It's the same release. And you always know. And you always know. I'm your summer girl. I'm your summer girl. I'm your summer girl. I'm your summer girl. Lightning in your eyes, you can't speak. You're falling from the sky down to me. I see it in your face, I'm relieved. I'm your summer girl, I'm your summer girl. I'm your summer girl. I'm your summer girl. I'm some girl, I'm some girl, I'm some girl. My shoulder, I need you. I need you to understand. These are the earthquake drills that we ran under the freeway overpass. The tears behind your dark sunglasses. The fears inside your heart's deepest gashes. Walk beside me.
Aïm sur France Inter, Summer Girl, Eva Bétan est là, messieurs, dames.
France Inter. Un jour dans le monde.
Eh ben, c'est une chose très rare sur nos écrans, un film qui nous vient du Bangladesh. Le film,
même moi, c'est mon premier film du Bangladesh.
Eh ben, c'est dire. Ça s'appelle Made in Bangladesh. C'est réalisé par une femme. Ça aussi peut-être encore plus rare d'ailleurs dans ce pays. Rubaiyat Hossain, c'est son nom. Made in Bangladesh, c'est évidemment ce qui est écrit sur l'étiquette de certains de nos vêtements, hélas. On a découvert, peut-être redécouvert, les conditions de vie épouvantables de ces gens lors de l'accident terrible. Les ouvriers textiles dans la catastrophe du Rana Plaza en 2013. Il y avait eu 1000 morts. On se souvient tous de cet immeuble qui s'était effondré sur ces gens. L'histoire du film, elle, se situe dans une petite usine textile. Une ouvrière décide de créer un syndicat et c'est inspiré d'une histoire vraie.
Alors, je veux dire d'abord, l'avantage des histoires qui sont racontées de l'intérieur par des gens du pays, c'est qu'elles apportent de la complexité. Nous, de loin, on dit « Oh, c'est affreux, c'est affreux ». Tout est plus complexe. Prenons un exemple pour cette complexité. Le Bangladesh, donc pays où des ouvrières triment dans des usines textiles, mais c'est aussi un pays où le pouvoir politique est détenu par des femmes. Écoutez la réalisatrice Rubaiyat Hossain.
C'est une période complexe, parce que dans la sphère publique, les femmes ont gagné du pouvoir. On a eu une femme présidente du pays pendant 20 ans, notre premier ministre actuel est une femme, de même que la chef de l'opposition et que la présidente de l'Assemblée nationale. Et notre première ministre a nommé des femmes à des postes importants. Les ouvrières qui travaillent dans les usines sont la colonne vertébrale de notre économie. Mais dans la sphère privée, c'est toujours une culture patriarcale qui domine. En plus de travailler dehors, les femmes remplissent tous les rôles à la maison. Ce qui fait que les femmes travaillent 18 heures par jour.
Voilà pour la clarification. Alors l'histoire du film Eva se déroule dans une usine textile, donc vous nous l'avez dit, qui n'emploie là aussi que des femmes.
Ça se passe en 2013 à Dhaka, donc au moment de la catastrophe du Rana Plaza. C'est une petite usine, les ouvrières travaillent 6 jours sur 7, durée extensive de la journée, extensible des femmes jeunes, travaillent dur, mais en même temps, il y a une chose qui est étonnante, c'est que ces femmes, elles n'ont pas les chines courbées, elles râlent, elles se plaignent, elles haranguent le patron, elles obéissent parce qu'elles n'ont pas le choix, mais elles râlent. Et l'une d'elles, soutenue remontée, on pourrait dire, par une militante extérieure à l'usine, crée un syndicat. C'est vraiment arrivé, ça a été difficile, mais elle l'a fait. C'est minoritaire. La réalisatrice dit que 4% des usines ont des syndicats, c'est pas très important. Donc, image complexe, vie difficile, mais elles ne sont pas que des victimes. Ces femmes sont des femmes qui travaillent, qui sont sorties de la maison, et ça, elles en ont conscience. Alors nous, on se dit que notre bonne conscience, est-ce qu'il faudrait pas qu'on arrête d'acheter les t-shirts made in Bangladesh? Non, dit la réalisatrice.
Le boycott. Quand vous dites « je ne vais pas acheter ce t-shirt fait au Bangladesh », c'est vraiment une chose que les ouvrières ne veulent pas. Ce qu'elles veulent, c'est que vous les souteniez, que vous les aidiez à être bien payées pour leur travail, pour les vêtements que vous portez. Il faut que vous sachiez que le personnage principal de mon film est inspiré de la vie d'une ouvrière. Sa famille avait voulu la marier à 11 ans dans son village. Alors elle s'est enfuie. Et elle a trouvé ce travail. Et donc ce travail lui a donné de l'autonomie. J'ai interviewé beaucoup d'ouvrières. Elles ne disent jamais « je vais à l'usine ». Elles disent « je vais à mon travail ». Elles ont conscience d'être des femmes qui travaillent. Donc si on enlève le travail à ces femmes, qu'est-ce qu'elles deviennent?
Voilà, quand on croit bien faire, parfois, ben, on fait mal. Hein.
Ben oui, ce sont des femmes pauvres, avec une société patriarcale. Elles ont très peu de choix.
C'est une réalité que j'ai pu constater. Des femmes sans éducation, sans compétences particulières, peuvent trouver du travail dans des usines. Parce qu'elles ont juste à apprendre à se servir d'une machine. À part ce boulot en usine, les autres possibilités qu'elles ont, c'est devenir domestiques chez des particuliers. Et c'est terrible. Ou rejoindre l'industrie du sexe. Il y a le mariage, mais vous pouvez être battu par votre mari, ou il peut vous quitter. Le mariage n'est jamais une garantie à 100%.
Complexe.
Ouais, voilà, qui donne envie non seulement d'aller voir le film, mais aussi de s'intéresser de plus près, tiens, au Bangladesh. Merci beaucoup, Eva Bétan.
Fabienne Synthèse, le 18-20.
Le monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, un de moins, ou plutôt une de moins, dans la course à l'investiture démocrate, donc aux États-Unis, en face de Donald Trump. Hier soir, la sénatrice de Californie, Kamala Harris, a renoncé. C'était l'un des principaux outsiders. Elle évoque des difficultés de financement dans une campagne, on le sait, où l'argent est roi. Mais vous, vous croyez que c'est tout à fait autre chose qu'une histoire d'argent, en fait, plutôt un symbole des contradictions de l'opposition démocrate face aux défis de Trump, et c'est votre monde à l'envers.
Au départ, c'était vraiment une histoire comme les médias américains. Les aiment, a good story, une bonne histoire. Kamala Harris avait un côté Obama au féminin, une femme métisse, de père jamaïcain, de mère indienne, une self-made woman, quelqu'un qui a dû se battre, compter sur elle-même pour gravir les échelons, devenir procureur, ensuite se lancer en politique. Version 2019 du rêve américain, si vous voulez, et aussi une image inversée de Donald Trump. Et la voilà donc, pourtant, qui jette l'éponge, en avançant donc un argument. I'm not a billionaire. Je ne suis pas milliardaire. Il m'est de plus en plus difficile de réunir les fonds nécessaires face à la concurrence. Fermez les guillemets, fermez le banc. C'est tentant de la croire, parce qu'en effet, on le sait, la campagne présidentielle américaine est devenue une affaire de gros sous. C'est qui lèvera le plus de fonds pour faire le plus de pubs, en particulier dans les états clés, l'Ohio, la Pennsylvanie, la Floride, etc. À ce jeu-là, Trump a d'ailleurs une longueur d'avance, plus de 160 millions de dollars récoltés cette année, à peine la moitié de dépensés. Et côté démocrate, le dernier à se lancer dans l'aventure, on le sait, c'est le milliardaire Michael Bloomberg, qui se dit prêt à sortir 1 milliard s'il le faut pour battre Trump. Cela dit, si on regarde les comptes de campagne sur le site officiel de la Commission fédérale, ce que j'ai fait tout à l'heure, on découvre que Kamala Harris occupait quand même une très honorable 5e place en termes de fonds levés, 37 millions de dollars, autant que le favori des démocrates, Joe Biden. Donc l'argument de l'argent, il est un peu trompeur, voire fallacieux.
Donc ce que vous dites, c'est que l'explication de son renoncement est bien ailleurs.
Oui, il faut d'abord chercher du côté de son positionnement politique, de son programme si vous préférez. Kamala Harris incarnait une sorte de mi-chemin, de compromis entre les deux ailes du parti démocrate. D'un côté, la gauche, incarnée par Elizabeth Warren, Bernie Sanders, qui prône l'assurance santé universelle, l'imposition des plus riches, la régularisation des sans-papiers. De l'autre, les centristes, le vétéran Joe Biden, le milliardaire Michael Bloomberg, ou dans un tout autre style, le jeune Pete Buttigieg, autant d'hommes aux positions globalement modérées. Kamala Harris se voyait quelque part au milieu, raison pour laquelle elle avait d'ailleurs refusé de se prononcer clairement sur l'assurance santé, ce qui était une maladresse. Son jet de l'éponge n'est pas rassurant. Il est révélateur de l'absence de compromis, de la division du parti entre une jeune garde militante aux positions assez radicales et un électorat majoritairement ventre mou qui demeure plus libéral et conservateur. On y trouve aussi bien de riches californiens que des millions d'électeurs d'origine hispanique, souvent croyants. Les démocrates sont très fragmentés. Et le problème, pour l'emporter face à Trump, c'est qu'ils ont besoin de faire le grand écart, de trouver le candidat qui séduira toutes les composantes de leur électorat. C'est pas gagné.
Mais Kamala Harris, elle avait le profil pour ça ?
Peut-être, en effet, en termes de positionnement politique. Mais elle ne l'avait sans doute pas le profil sur le plan personnel. Et c'est en cela aussi que son jet de l'éponge est révélateur. Pour le dire brut de coffre, les États-Unis ne sont peut-être pas prêts pour une femme présidente, a fortiori une métisse. Soit dit en passant, la France n'a pas de leçon à donner en la matière. Une partie de l'électorat féminin américain reste traumatisée par l'échec d'Hillary Clinton il y a 3 ans. C'est le défi posé à Elizabeth Warren, qui, elle, est encore en lice. Pour en revenir à Kamala Harris, ajoutons que c'est une Californienne. Elle pouvait donc apparaître éloignée des préoccupations de l'électorat ouvrier des États clés de l'Est. Ça fait beaucoup de handicap. Et puis, il y a un dernier constat frappant. Avec le retrait de Harris, 55 ans, eh bien, il n'y a plus de quinquagénaire susceptible de l'emporter. Le match des démocrates va donc se jouer entre une brochette de septuagénaires, Biden, Sanders, Bloomberg, Warren, et le candidat inattendu, le trentenaire Pete Buttigieg, guerre revendiquée, croyant pratiquant, ancien militaire. Face à Trump, ce sera soit l'expérience, soit la jeunesse, la génération du milieu a payé les pots cassés. Sauf, évidemment, à ce que Kamala Harris se retrouve sur un ticket avec le vainqueur pour un poste de vice-présidente possible.
Allez, on n'y est pas encore, on verra ça. Merci beaucoup Jean-Marc Faure et Le Monde à l'envers. On reste ensemble, nous, pour Le Téléphone Sonne. Juste avant, il y a le journal de Sébastien Paour, ne bougez pas.